J'imagine que vous vous en souvenez, le 22 juillet 2011, un certain Anders Behring Breivik commettait deux attentats en Norvège, faisant 77 morts et 151 blessés. Et il se justifiait avec un document extrêmement long, en défendant l'Europe chrétienne contre l'invasion musulmane. Ce qu'on appelle maintenant, c'est le terme à la mode, le grand renversement.
Renversement,
c'était BHL, c'est autre chose.
On a du mal. Hein.
Et donc, ce qu'il y a de curieux dans ce fait, que chacun a plus ou moins en tête, c'est que nous n'avons jamais entendu parler, à la une des journaux ou dans les titres des télévisions, des radios, de terroristes chrétiens. Pourtant, les 7 et 9 janvier 2015, quand trois terroristes se réclamant de l'islam, Sherif et Saïd Kouachili et Hamedi Koulibaly, ont commis des actes que vous savez, qui sont évidemment ignobles, ça va de soi, on ne devrait même pas avoir à le dire, tout le monde les a appelés terroristes musulmans. Et je crois qu'il fallait bien mesurer les conséquences de cette dénomination. C'est que ça allait attribuer d'une manière subliminale les horreurs commises par trois personnes à un groupe qui, lui, en compte, selon les évaluations, 4 ou 5 ou 6 millions. Et cet amalgame-là, dont tout le monde évidemment se défendait, y compris la France blanche, y compris la France de gauche, évidemment, cet amalgame-là a été jusqu'à la caricature, et nous sommes dans la caricature, puisqu'on a maintenant trois cas d'enfants de 8, 9 et 10 ans convoqués au commissariat ou à la gendarmerie pour apologie du terrorisme. Des enfants qui, donc, vu leur âge, à moins que ce soit des surdoués, ne savent ni le sens de apologie, ni le sens de terrorisme. Donc on est là quand même devant une hystérie collective dont certains pensaient que les grandes manifestations nous protégeraient et qui reflète, sinon ça ne marcherait pas si bien, un consensus très large. Sans mordre sur la spécificité de Michel, je voudrais dire que la manière qu'ont eu les médias de renvoyer dos à dos le phénomène antisémite et le phénomène islamophobe ne tient pas debout. Il suffit de jeter un œil, ça prend 10 minutes à quiconque va sur, par exemple, le site de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, pour s'apercevoir que s'il est vrai qu'il y a eu une augmentation des actes de violence contre les juifs et contre les musulmans. En revanche, au niveau des enquêtes, et c'est une enquête que la CNCDH fait depuis, si ma mémoire est bonne, 25 ans, il n'y a pas d'augmentation significative des opinions antisémites dans notre société, alors qu'il y a une explosion des opinions islamophobes. Je vous donne des chiffres. En 2014, il y a eu 241 actions violentes anti-juives, c'est plus 130%, c'est donc pas négligeable, mais c'est un chiffre qui est relativement peu important par rapport à l'ensemble des violences en France, et il y a eu 133 actions violentes islamophobes, mais en un mois, du 7 janvier au 7 février, on en a recensé 153, c'est-à-dire il y a eu plus de violences islamophobes, anti-musulmanes, en un mois que dans toute l'année 2014. Quant à l'enquête dont je vous parlais, je vous la cite parce que c'est vraiment des choses qu'on n'entend jamais et ça m'énerve, y compris dans des journaux où on devrait en entendre parler, ou à des radios où on devrait en entendre parler. je cite, hein, « Les Français juifs sont de loin la minorité la plus acceptée aujourd'hui en France. Si l'indice d'acceptation des juifs a baissé de 6 points depuis 2009, où il atteignait un niveau record de 85%, il reste de très loin supérieur à celui de tous les autres groupes, 6 points au-dessus de celui des Noirs, 21 points au-dessus de celui des Maghrébins et 28 points au-dessus de celui des musulmans. » Donc, violence, je dirais pas égale, mais de même caractère, mais au niveau de l'opinion, une disproportion très nette entre l'antisémitisme et l'islamophobie. Tout cela étant dit, il reste que trois jeunes Français se réclamant de l'islam ont eu un ressentiment assez violent pour les conduire à tuer. Et à cela, on pourrait rajouter Mohamed Merah, où là, il y avait quelque chose d'encore plus troublant avec les enfants. Mohamed, je crois, je ne sais plus son prénom, Nemouche, en tout cas. Mehdi Nemouche, celui de l'attentat contre le musée juif de Bruxelles. Et ça, de toute façon, ça mérite réflexion. Et c'est une réflexion qu'il faut mener avec énormément de prudence, mais qu'on doit mener. Parce que, d'une certaine manière, elle recoupe aussi le phénomène du départ pour le djihad. Moi, je pense, je l'ai écrit il y a très longtemps, donc je le pense encore, mais tout ce qui s'est passé depuis me le confirme, que ce terreau-là, qu'on peut appeler le terreau du terrorisme, qu'on peut appeler le terreau du djihadisme, qu'on peut appeler comme on veut, il comporte trois éléments. Et si on en loupe un, on ne peut pas comprendre ce qui se passe. Le premier élément, c'est le poids du passé colonial. Je ne suis pas convaincu qu'on puisse encore parler de la société française comme une société coloniale. Je pense qu'elle est plutôt une société post-coloniale, avec tout ce que ça signifie. Mais ce qui est sûr, c'est que le passé pèse très lourdement. Ne serait-ce que parce que les revanchards de la France blanche, comme dirait Nassira, se sont battus et continuent de se battre sur l'idée du bilan positif de la colonisation. On a quand même eu, à notre grande honte, un texte de loi, bon, qui depuis a été aboli, mais qui...
L'article
a été modifié, c'est-à-dire il n'y a plus l'affirmation que les manuels scolaires doivent, etc. Ce qui est quand même, me semble-t-il, important. Mais on l'a eu. On l'a eu et c'est évidemment quelque chose qui est venu verser de l'huile sur le feu. Le feu qui n'avait pas cessé de couver s'est trouvé ravivé par cette bataille. Je pense que toute l'histoire coloniale, surtout quand elle n'est pas enseignée, et elle ne l'est pas massivement, à part la guerre d'Algérie, et encore, il faut aller voir de près comment c'est fait, mais toute cette histoire-là pèse, peut-être d'une certaine manière, plus sur les jeunes que sur leurs aînés, leurs parents. Parce que les parents baissaient la tête souvent, dans l'histoire de la société française, après la guerre d'Algérie, disons. Les enfants, eux, le prennent en pleine face, quoi. D'autant que, quand on prétend se battre pour l'intégration, je ne sais même pas si ce mot ne va pas redevenir subversif, tellement le mot assimilation est revenu en force dans le discours politique, mais quand on parle d'intégration, on en parle en pointant le doigt, dont parlait Nassira aussi tout à l'heure, sur les jeunes issus de l'immigration. Pas sur la société française qui ne sait pas les intégrer. La moindre des choses, ce serait d'abord de balayer, nous Français au sens large, devant notre porte. Et c'est une porte qui est particulièrement sale. Il y a beaucoup à dire. Deuxième élément, pour ne pas être trop long, du terreau, c'est la première fois de ma vie que je suis d'accord avec lui, ce dont a parlé Manuel Valls, c'est-à-dire l'apartheid territorial, social et ethnique. C'est extraordinaire parce qu'on a vu dans son propre parti et à droite une explosion de critiques en disant mais comment, mais il n'y a pas de loi d'apartheid chez nous. Écoutez, si c'était bien nécessaire d'avoir une loi, je ne doute pas qu'on en aurait fait. La réalité, c'est celle d'un apartheid. Et 2004, la loi sur le voile, et tant d'autres, c'est évidemment des lois d'apartheid.
Dont celle de la survivance coloniale, celle du couvre-feu.
Celle du couvre-feu, enfin, on a
oui, on a une liste.
Tout ce qu'il faut. Moi, personnellement, je suis d'accord avec Manuel Valls, c'est donc la première fois de ma vie, d'autant qu'il y a presque 10 ans, juste après la révolte des banlieues, j'avais écrit dans Le Monde diplomatique un article, qui je crois était à la une d'ailleurs, qui s'appelait « Casser l'apartheid social ». Donc je ne suis pas vraiment gêné par l'utilisation du mot « apartheid ». J'ai été regarder, parce que j'aime bien les chiffres, parce que je trouve que c'est des arguments importants, dans le dernier rapport de l'Observatoire des ZUS, les zones urbaines sensibles, qui en gros recoupent les quartiers les plus pauvres. Eh bien, on a exactement, en pire, ce que j'avais observé à l'époque il y a 10 ans, c'est-à-dire que les maux dont souffre la société française, ils sont redoublés au sens propre dans les ZUS. Je vous donne des exemples. En France, c'est les chiffres de 2013. Hein. En France, on a 9,9% de chômeurs déclarés, comme tels. Dans les ZUS, on en a 24,2%. La pauvreté officielle est en France, touche en France 14,3% des ménages, non, des individus, pardon. Dans les zones urbaines sensibles, c'est 36,5%. Le revenu fiscal moyen est de 22 101 euros en France. Il est de 12 542 euros dans les ZUS. Le retard scolaire en France, en moyenne, retard d'un an et plus hein, dans les statistiques, il est de 12,3% en France en général et dans les ZUS, de 21,8%. Quant au taux d'illettrisme, alors là, c'est pas multiplié par 2, mais par 4, il est en France de 3%. C'est très discuté, hein, ces statistiques. Elles sont faites au minimum. Et dans les ZUS, on est à 12%. Donc, s'il fallait prouver qu'on est bien dans une société d'apartheid, en tout cas sociale et politique, c'est là dans le rapport d'un organisme d'État qu'on y trouve, dont on trouve les preuves. Le troisième terreau, à mon avis, ou élément du terreau, c'est le sentiment justifié, je rajoute immédiatement, d'une victimisation. Il faut, je le dis d'autant plus que je suis bronzé mais pas basané, pour me situer, il faut essayer d'imaginer ce que représente pour un jeune de 15 ans ou de moins le fait que la Palestine n'en finisse pas de crever sous les bombes israéliennes tous les 3 ans, en gros, plus tous les morts intermédiaires, que en Syrie on dépasse les 200 000 ou 250 000 morts. Et là, ce sont des jeunes musulmans qui meurent. Que en Irak, comme ne le disent pas la plupart des médias, les principales victimes de Daesh sont bien sûr des jeunes arabes, y compris sunnites, parce que Daesh fait le ménage dès qu'il y a la moindre opposition à sa mainmise. En Libye, qui meurt dans le chaos provoqué par l'intervention française, comme en Irak d'ailleurs, Daesh est le produit de l'intervention américaine, comme en Syrie, peut-être ce qui se passe est le produit de la manière dont le monde occidental a fermé les yeux sur le régime des Assad, le père comme le fils. Bref, on sent que tout d'un coup, et ça c'est très intéressant, je crois, c'est un point d'une certaine manière positif d'avenir, un certain nombre de Français sont en train de mesurer que la politique étrangère a des conséquences en politique intérieure, qu'on ne peut pas impunément mener des guerres d'agression avec tout ce qu'elles veulent dire et s'étonner après d'être en guerre. Si on est en guerre, c'est parce qu'on est en guerre, pour être clair. Voilà ce que je voulais dire un tout petit peu sur ce que m'a inspiré le mois tragique que nous avons vécu. Par rapport à ce qu'a dit Nassira et que je partage pour l'essentiel, je dirais que moi, la question principale que je me pose, c'est comment on peut, j'allais dire construire, parce que reconstruire, ça voudrait dire que ça a existé, mais ce n'est pas le cas, des alliances solides entre ce que tu appelles la France basanée et la France blanche, mais qui sont des alliances vitales pour les deux. Parce que on voit bien ce qui se passe quand il n'y a pas d'alliance et que les jeunes des quartiers en sont les premières victimes. Mais on sait, nous, aussi, ce que signifie l'absence d'alliance, c'est-à-dire Marine Le Pen, au second tour de la présidentielle, avec, personne ne veut le regarder en face, la possibilité réelle, d'abord qu'elle gagne au second tour, rien ne permet de l'écarter, et que même si elle ne gagne pas, elle soit en état d'imposer une participation massive du Front National au gouvernement de droite. Et on voit très bien à droite que les candidats se pressent au portillon pour venir, le cas échéant, promettre à Marine Le Pen des places au pouvoir. Au point que Philippot, comme vous l'avez peut-être vu, a annoncé que lui, il était prêt à prendre n'importe quelle alliance, que ce soit avec l'UMP ou que ce soit avec le Parti Socialiste. Cet homme est extrêmement ouvert et tolérant, on le voit. On a tort de dire du mal du Front National, ce sont des gens très cordiaux. Je pense qu'il faut bien mesurer que ce dont nous a parlé Nassira, et je terminerai là-dessus, c'est vital pour empêcher l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. Et je ne veux pas passer vers un autre sujet, mais je suis prêt à ce qu'on en discute aussi, parce que ça fait partie de ce qui nous pend au nez. Autant Marine Le Pen a fait tout ce qu'elle pouvait pour ripolliner la façade du Front National, pour la rendre un peu plus présentable, autant son parti n'a absolument pas changé de nature. Et on le saura et on le vérifiera le jour où il sera au pouvoir, seul ou avec d'autres. Et ce jour-là, on ne sait pas comment on s'en débarrassera. Parce que l'expérience, c'est que ces gens, on sait comment ils arrivent au pouvoir, on ne sait pas comment ils en partent. Ou quand ils en partent, pour les précédents qu'on a connus, c'est dans des conditions particulièrement tragiques. Voilà ce que je voulais dire.